Bonjour La Terre Carrée, c'est Félix de Paris. Nous, on est Ferme Fleur Urbaine, on produit des fleurs à Paris. En fait, je voulais inviter tous les auditeurs à se rendre sur le site du collectif de la fleur française, qui n'a pas été mentionné, et qui regroupe des producteurs et des fleuristes vraiment engagés vers le développement d'une filière française vertueuse. C'est pas simple, on est tout petit, on a peu de moyens, mais la force du collectif, en fait, c'est qu'on travaille tous ensemble, on se fait des visions entre producteurs, parfois quand on a des questions, on se la pose sur une messagerie et puis on a rapidement une réponse, même depuis le champ où on travaille. Donc c'est un collectif qui est vraiment important pour nous et les auditeurs trouveront sur le site du collectif toutes les adresses des fleuristes qui sont vraiment engagés pour retravailler la fleur locale et de saison. Au revoir.
Bonjour, je suis Sylvia. Je vous appelle de Tourcoing, dans le Nord, à proximité de Lille. Mon message fait suite aux nombreux messages que vous avez déjà reçus de vos auditeurs au sujet des publicités diffusées sur France Inter. Et pour ma part, j'ai été vraiment choquée par les publicités qui concernaient la consommation de viande, le poulet, le canard, le magret de canard, le foie gras. Et surtout la pire de toutes, qui se résumait par « bravo le veau » pour encourager la consommation de cette viande. J'adore votre émission, mais franchement, diffuser de la publicité pour défendre les producteurs qui sont responsables de maltraitance animale, je trouve ça désolant. Merci de votre attention. À bientôt, au revoir.
Bonjour, c'est Claire de Paris. Je suis la créatrice des Pépites Vertes. C'est un média qui donne la parole à des jeunes salariés de la transition écologique pour donner des idées de métier à d'autres jeunes. Et j'aurais aimé vous faire savoir que nous sommes actuellement en recherche de témoignages. On cherche des jeunes qui ont fait des études courtes et qui sont récemment rentrés sur le marché du travail pour pouvoir mettre en lumière une nouvelle série de vidéos en partenariat avec l'ADEME. Vous pouvez trouver toutes les informations sur lespépitesvertes.fr/appel à pépites. Vous avez jusqu'au dimanche 13 février pour le faire et peut-être que vous pourrez bénéficier d'une mise en lumière sur les pépites vertes sous un format vidéo. Merci beaucoup et belle journée.
Oui, bonjour, Yann du Maine-et-Loire. Je vous appelle par rapport à vos émissions dans les Pyrénées. Super idée d'aller côtoyer directement en montagne, à la nature, c'est une très bonne idée. Par contre, je comprends pas trop le principe du média radio. Normalement, c'est d'avoir des sons, d'avoir des bruits, on parle d'émerveillement, de beauté de la nature. Les seuls sons qu'on entend, c'est les descentes à ski ou un peu le bruit du vent. On n'entend pas un animal, on n'entend pas un bruit de rochers, d'arbres, de souffle du vent dans la radio. Il me semble pourtant qu'il y a des personnes qui travaillent au sein de votre équipe qui sont ingénieurs du son. Après que Camille descende avec des skis, elle est montée là-haut, elle a bien le droit de descendre, ça, il n'y a pas de problème. Sinon aussi, oui, à un moment, on parle de la neige de culture. Et moi, ça m'a fait penser à la récupération d'eau. Bon, même s'il n'y a pas de forage, ça fait penser un peu aux bassines qui sont pour les céréaliers, pour irriguer. Je trouve qu'il y a un peu des ponts à faire à ce niveau-là. Voilà, et se poser les questions. Merci, au revoir.
Et merci à toutes et à tous pour vos messages. Alors Yann, quand même, pour répondre à cette impression, vous avez eu du manque d'ambiance sonore dans nos émissions pyrénéennes. Alors je peux vous assurer d'abord que c'est vraiment une préoccupation principale lorsque nous sommes comme ça en extérieur et qu'on vous emmène dans nos déambulations. Alors il faut dire quand même que la nature n'est pas toujours très coopérante. Hein,
bon, surtout. Le rocher, si vous avez une idée du bruit du rocher, dites-nous.
Ouais. Voilà, le meilleur des ingénieurs du son aimerait bien enregistrer le son du rocher. En tout cas, c'est vrai que c'est parfois difficile de vous faire entendre le bruit de la nature. Du bouquetin, par exemple, hein, quand on doit respecter des distances pour observer d'animal, ou le souffle de l'air lorsque le vent affiche un calme plat, comme ça a été le cas d'ailleurs à plusieurs reprises, mais pas seulement.
Mais au Pic du Midi, réécoutez l'émission de lundi dernier, on a fait écouter le vent à la fin, au Pic du Midi.
Voilà, le bruit des arbres, la neige, la rivière, le vent, vous pouvez réentendre tout ça en allant sur les 3 podcasts qui sont en ligne. Et puis bien sûr, si vous avez envie de nous faire partager vos sons de nature, eh bien ce répondeur peut aussi vous servir à ça, il vous suffit de composer le 01 56 40 45 45. C'est donc aujourd'hui, vous l'avez entendu, que s'ouvre à Brest pendant 3 jours le One Ocean Summit, un sommet voulu par Emmanuel Macron autour des mers et des océans. Une 20aine de chefs d'État, de nombreux scientifiques, des entreprises, des ONG sont donc attendus sur place dans un contexte où, vous le savez, l'océan se réchauffe, perd son oxygène et s'acidifie, comme le rappelait le rapport spécial du GIEC en 2019. Si certains parlent d'un exercice de communication politique, ce sommet a quand même la vertu de mettre les océans au cœur des discussions, eux qui ont été les parents pauvres des négociations internationales. rurale. Et parmi les questions cruciales qui seront traitées pendant ces trois jours, celle de l'exploitation des ressources minérales. Si le président de la République a vanté l'exploration sous-marine, nombreux sont les scientifiques et les ONG à s'inquiéter de cette ruée vers les abysses dans les eaux du globe. Comment s'organise justement cette conquête géostratégique des ressources? Quels sont les risques pour la biodiversité marine? Eh bien, c'est notre dossier cet après-midi avec nos invités, François Chartier et Pierre-Marie Saradin, tous les deux en duplex des studios de France Bleu Brésisel à Quimper. Bonjour à vous.
Bonjour tout le monde.
François Chartier, vous êtes chargé de campagne océan pour Greenpeace France. Pierre-Marie Saradin, vous êtes-vous écologue responsable d'une unité de recherche sur les écosystèmes profonds à l'IFREMER. On va donc se retrouver ensemble dans un instant pour comprendre bien ce qui se joue autour de l'exploitation des grandes profondeurs. Vous allez répondre aux messages et aux questions des auditrices et auditeurs qui nous rejoignent comme tous les jours sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'appli France Inter avec vos notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30 et on reste à Brest avec vous.
Oui, avec, regardez, jusque des vagues, jusque sur ma chemise. Ouais. Objectif annoncé de ce One Ocean Summit, réparer les océans, rien que ça. Si c'est comme le One Planet Summit dont tout le monde se souvient, bien sûr, il y a un an, bah, ça promet. Hein.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Colin Gruel, avec à la technique aujourd'hui, Clément Berman.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Le One Ocean Summit, c'est une bonne initiative. C'est comme les COP. Ça réunit bien sûr des gens qui sont tous convaincus, mais en général des gens qui aussi travaillent à la solution. Et ces réunions, elles vont être internationales. Ça permet de faire venir des gens du monde entier pour parler de l'océan. Un, c'est les plastiques, l'autre, c'est les polluants, l'autre, c'est la surpêche, l'autre, c'est le climat. Donc ça permet de mettre toutes ces questions dans l'actualité. Ça révèle notre irrespect un peu, vous voyez, pour l'océan. Il est surpêché par endroits. On y envoie tout à travers les grands fleuves et il est quand même là pour compenser le réchauffement climatique. C'est un grand régulateur du climat, l'océan.
La voix de l'explorateur et médecin Jean-Louis Etienne, c'était il y a deux jours sur France 3, alors que démarre donc ce sommet de l'océan à Brest. On s'intéresse donc en particulier à l'exploitation des ressources sous-marines avec François Chartier de Greenpeace et Pierre-Marie Saradin de l'IFREMER, en duplex donc de Quimper. François Chartier, on en parlera évidemment avec Camille tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un tel sommet et qu'est-ce qu'en gros il va se passer là à Brest pendant trois jours?
On attend deux choses principalement, nous, de ce sommet. D'une part, qu'on sorte un peu des engagements de principe, comme ça a été dit, le One Planet Summit de l'année dernière, ou les grandes messes, le G20, etc., où on a vu des déclarations volontaristes, hein, qui disent qu'il faut protéger les océans, qu'il faut sauver le climat. On a vu un président Macron être très volontariste, comme je disais, sur le sujet. Et en fait, on voit qu'il y a très peu de choses concrètes. Il y a peu de portage politique. On voit que sur les dossiers comme les aires marines protégées, les niveaux de protection, c'est-à-dire à quel point on va fermer les aires protégées aux activités industrielles, on n'est pas à la hauteur. Donc nous, ce qu'on attend, c'est des engagements concrets. C'est maintenant, pour paraphraser Greta Thunberg, il faut arrêter le blabla, il faut arrêter de redire ce qu'on a déjà dit, et il faut aller concrètement vers notamment les négociations pour le traité sur la haute mer. C'est l'agenda le plus urgent, puisqu'en mars va se décider, ou on espère en tout cas un traité, qui permettra de créer des aires marines protégées en haute mer. Et puis l'autre élément, qui finalement occupe beaucoup l'attention des médias, que nous on a beaucoup porté, société civile, ONG, c'est justement le sujet d'aujourd'hui, oui. L'extraction minière en grand fond, et malheureusement, ce n'est pas à l'ordre du jour du sujet, il n'y a pas de table ronde, il y a eu un débat ce matin auquel on a participé, qui était intéressant, qui a amené un peu les positions de la France, les positions des ONG, mais ça reste marginal par rapport aux discussions principales du sommet.
Alors que le sujet, lui, est loin d'être marginal. Pierre-Marie Saradin, cette année, donc l'océan est à l'ordre du jour d'au moins six grands rendez-vous internationaux. Est-ce que quand même on peut parler d'une prise de conscience autour des enjeux maritimes?
Alors moi j'aime bien ce qu'a présenté Jean-Louis Etienne. Ce sommet, il a le mérite de mettre en avant les questions scientifiques. Et c'est des questions scientifiques qui sont très très complexes. L'océan, c'est quelque chose de global. On dit one ocean, il y en a qu'un seul. Tous les océans sont connectés. Et on s'aperçoit qu'on a des problématiques qui sont côtières, des problématiques qui sont de surface, qui sont dans la colonne d'eau, la surpêche et l'océan profond. Prendre en compte cet océan et toutes les questions qui sont liées, c'est vraiment important. Et on l'a vu également dans le discours de notre président, on s'aperçoit que l'océan profond commence à apparaître comme une priorité.
François Chartier, on peut s'attendre à des engagements de Brest à l'issue de ce sommet? En tout cas, c'est ce qui est envisagé, a priori?
C'est ce qu'on espère et c'est comme ça que c'est présenté. C'est-à-dire, c'est pas tellement un sommet comme les COP où on négocie un texte, comme l'accord de Paris ou comme au mois de mai la convention sur la diversité biologique, où on attend par exemple une décision sur l'objectif de protéger 30% des océans d'ici 2030. Là, on a pour objectif de remettre, comme ça a été dit, le sujet des océans sur le devant de la scène et de la scène politique internationale, ça c'est très bien. Mmh. Et il faut des engagements concrets. On en attend sur le traité sur la haute mer, notamment concernant le levier conservation, et on en attend sur les niveaux de protection des AMP de notre côté.
Alors en octobre dernier, lors de la présentation du plan France 2030, eh bien Emmanuel Macron a fait frémir quelques scientifiques et ONG en prononçant ces mots.
La France, je le disais, est la deuxième puissance maritime du monde. Et il y a aujourd'hui, pour comprendre, connaître les grands fonds marins, des innovations de rupture à conduire pour mener ces explorations et pour permettre le travail scientifique. J'entends déjà le débat venir. Je ne parle pas d'exploitation à ce moment-là. Je parle d'exploration. Mais qui peut accepter que nous laissions en quelque sorte dans l'inconnu la plus complète une part si importante du globe ?
Voilà, l'exploration, sauf que même s'il s'en défend, beaucoup ont entendu François Chartier le mot « exploitation » derrière ses propos. C'est-à-dire quoi, que la frontière est très fine et qu'il faut être ultra vigilant ?
Il y a aujourd'hui une grande ambiguïté depuis un an, hein, depuis cette déclaration, depuis l'abstention de la France à l'UICN en septembre dernier sur la résolution pour un moratoire, et puis dans la stratégie nationale Grand Fonds qui a été publiée en mai 2020, une ambiguïté entre exploration et exploitation. Alors de quoi on parle en quelques mots ? On parle donc d'une organisation internationale qui s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins, qui produit des licences d'exploration et qui travaille à un code minier pour l'exploitation. Et donc on parle bien, et c'est la définition même de l'exploration par ce code minier, d'aller évaluer des gisements et de voir la possibilité de les extraire. Et de même, quand on regarde la stratégie nationale des grands fonds, c'est la stratégie nationale des grands fonds pour l'exploration et l'exploitation. Et il y a tout un thème sur les possibilités d'exploitation à terme. Alors là où on est d'accord, en revanche, avec le gouvernement, avec la communauté scientifique, c'est qu'il faut plus de science, il faut plus de connaissances, mais pas à des fins industrielles. On n'en est pas à ce stade-là. Ouais.
Alors Pierre-Marie Saradin, justement, vous qui êtes écologue au sein de l'IFREMER, expliquez-nous quand même le lien exact de l'IFREMER avec l'Autorité internationale des fonds marins, parce que vous avez un rôle à la fois auprès du gouvernement et des industriels. Donc, quelle est votre position exactement ?
Alors, d'abord, l'IFREMER, c'est un institut de recherche, donc on est avant tout des chercheurs. À côté de ça, l'IFREMER est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial, donc qui tire une partie de ses subsides de l'État et de plusieurs ministères. Et dans ce cadre-là, on a des missions d'appui aux politiques publiques. Et concernant l'Autorité internationale des fonds marins, la France a chargé l'IFREMER de gérer les deux contrats d'exploration que la France a dans la zone, donc la zone hors des juridictions françaises.
Donc Pacifique, donc le premier, Nord en l'occurrence.
Alors l'un dans le Pacifique et le deuxième, donc pour la ressource qui est les nodules polymétalliques, et le second contrat d'exploration qui est sur la dorsale médio-atlantique pour les amas sulfurés.
C'est quoi les nodules polymétalliques, Pierre-Marie Sardin ?
Alors, les nodules polymétalliques, vous imaginez des petites sphères, des petites pommes de terre qui font une dizaine de centimètres de diamètre, qui ont mis des millions d'années à se former, qui sont issues de la précipitation très très lente des métaux qui sont présents dans l'eau de mer et qui vont recouvrir des milliers de kilomètres carrés sur la plaine abyssale, sur le fond de l'océan.
Mais donc, quand on reprend les mots d'Emmanuel Macron qui parle d'exploration, on pourrait se dire un petit peu naïvement, ah bah il a envie d'aller, que les chercheurs puissent aller cartographier, ne serait-ce que cartographier les fonds marins, puisqu'on sait qu'on connaît très mal aujourd'hui les océans, la cartographie, voilà, le plancher océanique, pardon, je trouve pas mes mots. Mais là, c'est pas du tout ça, en fait. C'est pas du tout d'aller juste explorer pour regarder un petit peu ce qui se passe. C'est d'aller sur des gisements, en fait.
Alors, François Chartier a raison, l'AIFM a vraiment pour objectif de mettre en place l'exploitation des fonds marins, et dans le cadre d'un contrat d'exploration, on peut résumer les missions qu'on a à au moins trois. La première, effectivement, c'est évaluer ce gisement, et ça donne des questions scientifiques comme comment ces gisements se sont formés, quelle durée, quel phénomène, etc. La deuxième, c'est quels sont les écosystèmes qui sont présents, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, certains sont encore très très peu connu, donc essayer d'établir une liste d'espèces, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, et ensuite ça fait partie de l'état zéro, et ce qui nous permettra ensuite d'évaluer des impacts potentiels. Et la troisième mission, c'est de commencer à estimer la faisabilité économique de cette exploitation.
Mais tout ça, ça veut dire derrière qu'il y a une possible activité d'extraction pour des partenaires privés de la part de l'IFREMER ou pas, Pierre-Marie Saradin ?
Alors,
c'est important de comprendre votre position parce qu'elle est, elle est un petit peu jugée partie finalement.
D'ailleurs, vous venez d'employer le mot exploitation, vous, hein.
Oui, mais alors. Alors, où j'en étais, vous m'avez perturbé.
Pour savoir non, quelle non, était vraiment la position de l'IFREMER, là. Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'extraction, justement, pour des privés?
Non, non, là, c'est clair. La position de l'IFREMER, elle est très, très claire. C'est-à-dire, si jamais un jour on doit aller jusqu'à l'exploitation, ces contrats seront transférés à des industriels français. Mmh.
Allez, on se retrouve dans un instant pour évoquer justement ces ressources si convoitées dans les abysses et quels sont bien sûr les risques pour les écosystèmes marins.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qu'on pas souffert. Je suis noir, je suis belle, je suis fumée, poussière, vacarme assourdissant. Mais ça, c'était avant.
Il faudra que je parte, mais promis je reviens. Poser ma rose fière sur la terre des anciens. Je ferai rugir les gares, les rêves de grands chemins. Il faut bien que je parte pour devenir quelqu'un.
Au quartier du soleil, quand j'apprenais la boxe, pour secouer les grilles de l'avenir branlant, brûlant comme une torche que n'éteint pas le vent, j'ai franchi l'océan. Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qui n'a pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne. Oh, ma première guitare, ma petite espagnole, qui ressemble à un voilier. Le manche a tant souffert sous mes doigts malhabiles, mes rires, mes colères. C'est ma mère qui me l'a offert. Elle m'attend quelque part. Elle m'attend quelque part. Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qui n'a pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne.
Je tiens d'elle, la voix de Bernard Lavillier.
La Terre au carré. Sur France Inter.
C'est un monde à part qui recouvre les trois quarts de notre planète. Au fond des océans, dans l'obscurité des abysses, se cache un immense trésor. En façonnant pendant 10 000 ans ces extraordinaires sculptures, la nature a concentré à cet endroit l'un des gisements de métaux les plus riches au monde. D'après les estimations, les sites connus contiendraient 150 millions de tonnes de cuivre, 10 ans de consommation mondiale. Encore plus profond, à 5000 mètres, des petites boules noires de 10 cm à perte de vue. Des nodules hyper concentrés en métaux. Ils contiendraient 275 millions de tonnes de cuivre, 340 millions de tonnes de nickel et 78 millions de tonnes de cobalt, de quoi alimenter l'industrie pendant des dizaines d'années. Ces gisements, découverts depuis 1985, sont répartis dans tous les océans.
Extraordinaire reportage de France 2 en février 2015. C'est dire qu'en 7 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est l'occasion donc de parler de ces ressources minières dans le plancher océanique avec nos invités François Chartier et Pierre-Marie Saradin. Pierre-Marie Saradin, qu'est-ce qu'on connaît exactement aujourd'hui de ces ressources? Est-ce qu'on est en mesure de les cartographier comme on l'évoquait tout à l'heure?
Alors, on commence effectivement à les cartographier, notamment grâce justement à ces contrats d'exploration qui permettent d'avancer sur leur localisation, sur l'évaluation du nombre de nodules, par exemple, sur des grandes surfaces. On est en train de développer aussi des méthodologies pour aller détecter les zones inactives des amas sulfurés. Faut savoir que ces amas sulfurés vont situer plutôt hors axe de la dorsale, et ce sont des zones inactives qui sont assez compliquées à détecter. Donc toutes ces zones, on les cartographie de manière de plus en plus précise.
Et François Chartier, vous à Greenpeace, du coup, comment vous voyez cette cartographie à venir, comme par hasard, j'ai envie de mettre entre guillemets, dans des zones, encore une fois, où il y a des gisements potentiels?
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a dit de tous ces derniers jours, l'océan est immense et la haute mer, c'est 55% de la surface de la Terre, mais c'est aussi un très grand désert. Et en fait, on va retrouver des oasis de vie, et ce sont souvent aussi, notamment ces fameuses cheminées hydrothermales dont on a parlé, là où il va y avoir aussi ces concentrations de métaux, mais aussi des concentrations dans une vie. Alors, c'est de la vie à plusieurs milliers de mètres sous l'eau, dans un noir absolu, qu'on a découvert il y a peu de temps. Pour certains, c'est peut-être même là que la vie a démarré sur Terre. C'est des études scientifiques récentes qui ouvrent cette hypothèse. On est sur des écosystèmes avec des croissances hyper lentes. Imaginez, ils attendent en gros que la matière organique tombe de la surface pour avoir de quoi se nourrir. Donc, des écosystèmes extrêmement fragiles. Et malheureusement, ce sont les mêmes hotspots de biodiversité, d'écosystèmes vulnérables, qui potentiellement sont les zones de gisement.
Pierre-Marie Sardin, je crois qu'il y a une initiative internationale qui a pour ambition de sonder l'ensemble du plancher océanique jusqu'en 2030, là. Donc, on voit bien que on est en mesure d'effectuer justement cette cartographie. Donc ça, c'est vraiment pour la connaissance. Mais est-ce que pour l'exploitation vraiment, technologiquement, aujourd'hui, on est au point pour aller dans ces grandes profondeurs?
Alors, on s'aperçoit que ce n'est plus la technologie qui est un frein, puisque on est capable de développer des submersibles qui descendent jusqu'à 11 000 mètres, donc la profondeur la plus profonde des océans. On s'aperçoit également que la technologie pour initier des développements de collecteurs de nodules polymétalliques ou de broyeurs de sulfures hydrothermaux existe, puisque certains industriels les ont déjà testés ou sont en cours de les tester.
Et alors justement, François Chartier, certains parlent d'une véritable guerre des abysses pour évoquer cet appétit des grandes puissances internationales. D'ailleurs, les militaires ne s'en cachent pas. Le milieu sous-marin représente aujourd'hui un nouveau rapport de force. Donc il y a une vraie compétition internationale sur ce sujet?
Alors, il y a une compétition à plusieurs niveaux. Il y a effectivement des acteurs du secteur minier, mais là on ne retrouve pas des entreprises françaises qui sont sur les starting blocks, pour dire ça. Comme ça a été dit, il y a des entreprises technologiques qui sont en compétition. On retrouve des parapétroliers, des gens comme des entreprises comme Technips, par exemple, qui se positionnent sur la technologie. Et c'est vrai que ces collecteurs, ces broyeurs commencent à être en capacité de fonctionner. C'est pas des petites choses, c'est beaucoup plus gros que ce qu'on connaît, nous, des bulldozers et des machines à terre. Là, on n'est pas sur des appareillages scientifiques pour faire de l'étude, mais ça commence à être prêt technologiquement. Et puis, il y a une compétition entre les États. Mais il y a une autre compétition qui est intéressante, c'est la compétition qui se fait autour du moratoire, de la demande de moratoire. C'est la résolution qui a été votée à l'UICN en septembre dernier. C'est en gros des compétitions entre ceux qui veulent y aller, qui veulent la mise en place d'un code minier à très court terme l'année prochaine, et ceux qui pensent qu'il faut au contraire donner du temps, et notamment à la science, et que c'est un moratoire sur l'exploitation. Et c'est intéressant parce que ce débat existe aussi entre les États du Pacifique et ceux qui seraient potentiellement bénéficiaires de ces ressources sous forme de rente, etc., etc., ne sont pas du tout unanimes. Donc on voit la vraie ligne de fracture aujourd'hui, finalement, elle est à ce niveau-là. Et après, oui, la compétition, elle est sur les autres internationales, pour terminer. Mais il y a aussi, ce qui n'apparaît pas évidemment dans le débat actuel, l'idée d'aller dans les eaux territoriales. Et on voit qu'il y a la Norvège qui s'apprête à adopter un code minier, avec un projet d'ailleurs dont la France pourrait être partenaire avec le géant pétrolier Equinor, ou qu'il y a une réflexion, on le voit dans la stratégie des grands fonds françaises, il y a un appétit pour la Polynésie et pour la Nouvelle-Calédonie aussi.
Justement, vous parlez des eaux territoriales. Elisa nous demande sur franceinter.fr, Pierre-Marie Sardin, à qui appartient finalement l'océan? Comment est-ce que c'est décidé?
Une partie de l'océan va être gérée dans le cadre de la ZEE, donc la zone économique exclusive qui va généralement jusqu'à 200 milles des côtes. Et dans cette zone-là, c'est le code minier du pays qui va prévaloir. Et ensuite, quand on dépasse cette limite, on arrive dans la zone, on appelle la zone avec un grand Z, donc la zone internationale. Et cette zone est normalement libre d'accès. Et va être, pour ce qui est des ressources minérales, gérée par l'Autorité internationale des fonds marins. Donc c'est une émanation de l'ONU qui a été créée en 1994, pardon, et justement pour gérer les ressources minérales, donc simplement le plancher océanique. Et actuellement, une des grandes négociations qui est en cours, c'est une négociation qui s'appelle Biodiversity Beyond National Jurisdiction. C'est comment gérer les ressources biologiques dans cette zone internationale.
François Chartier, ça veut dire qu'il y a un vide juridique dans lequel les industriels sont en train de s'engouffrer là aujourd'hui, joyeux.
Il y a un vide juridique qui constitue une sorte de millefeuille. Et un des enjeux aujourd'hui de cette négociation sur le traité, donc le traité sur la haute mer, ce fameux BBNJ, c'est de pouvoir créer des aires marines protégées dans cette zone. Pour l'instant, c'est totalement impossible. Ce qui pose problème, c'est que d'une certaine manière, l'autorité internationale des fonds marins pourra quand même développer des licences malgré cette dynamique de créer des aires marines protégées en haute mer. Donc en fait, ce qui manque dans cet édifice, c'est l'articulation entre les organisations sectorielles, ouais. L'AIFM pour l'exploitation des fonds marins, les organisations de gestion des pêches et l'approche globale. Nous, ce qui nous semble important, c'est que ce traité puisse mettre la conservation à la place dont on a besoin, à la place nécessaire, et d'une certaine manière s'imposer aux activités sectorielles. Et ça, on en est encore super loin.
Pierre-Marie Saradin, avant de passer à Camille Passauvert, on voyait dans la presse Catherine Jandet, l'océanographe, qui disait finalement, on va exploiter les fonds marins avant même de bien les connaître. Donc il y avait toute une crainte par rapport au fait qu'on allait abîmer ce plancher océanique avant même de pouvoir bien le connaître, donc de faire de la science. C'est ce que vous craignez, vous aussi, ou pas, en tant qu'écologue ?
C'est ce qu'on vit tous les jours. Nous, il y a une quinzaine d'années, on faisait le même métier et on découvrait ces grands fonds océaniques. Donc actuellement, on continue à découvrir de nouvelles espèces, on découvre des nouvelles façons de fonctionner, on ne connaît pas encore leur manière de se nourrir, de se disperser, de coloniser des nouvelles zones. Donc effectivement, on est sur des zones qui sont encore peu connues, et c'est ce qui rend d'autant plus difficile la réponse à la question de l'impact.
Et bien justement, on en parlera dans un instant pour voir quels sont les risques pour la biodiversité de cette exploitation minière des grands fonds, et vous répondrez au message des auditeurs de la Terre au carré.
France Inter. La Terre au carré.
14h31, Camille Passauvert.
Et nous sommes tous bilingues en anglais aujourd'hui.
Le One Ocean Summit s'ouvre pour 3 jours.
Le One Ocean Summit.
Enfin, plus ou moins
ouais,
bilingue.
C'est pas facile à dire. Ouais.
Avec ce qu'on pourrait traduire par le sommet. Un océan, un seul océan, sommet international sur les océans, donc qui s'est ouvert aujourd'hui à Brest pour agir face aux menaces. C'est écrit sur le site internet. Vous vous souvenez, c'est le président Emmanuel Macron qui l'avait annoncé de Marseille en septembre dernier.
La France va organiser dans les prochains mois ce que nous avons fait pour la biodiversité en début d'année, c'est-à-dire un One Ocean Summit, qui va consister à mettre les scientifiques, les acteurs économiques, les acteurs régionaux et les Nations Unies autour de la table pour pouvoir lancer des initiatives en matière de recherche, en matière de juridiction internationale et essayer aussi de bâtir, de compléter, si je puis dire, le droit international qui nous permettra de protéger cet espace.
Qui recouvre 71% précisément de la planète, je le rappelle, produit la moitié de l'oxygène qu'on respire, en plus de capturer le CO2 et de contribuer à nous nourrir et à nous soigner, entre autres, sans parler bien sûr anthropocentré que nous sommes, de tout le vivant que constituent et renferment les océans. Il y a donc, depuis ce matin à Brest, 400 participants, plus ceux en visioconférence, avant que 20 chefs d'État ou de gouvernement ne viennent clôturer le tout vendredi, plus 20 à distance, mais pas de Chine ni de Russie à l'horizon, avec un objectif relayé par l'ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes français, Olivier Poivre d'Arvor, un petit peu VRP du sommet.
L'objectif, il est très très simple, c'est de réparer l'océan.
Réparer l'océan en 3 jours à Brest, franchement, c'est beau.
C'est du foutage de gueule, hein, clairement.
Alors, changement d'interlocuteur, oui. Là, c'est Thibaut Josse. Thibaut Josse, qui est coordinateur de l'association Pleine Mer, qui se bat contre la surpêche, et parmi les associations qui est organisé un contre-sommet le week-end dernier, et appelle à manifester ce vendredi à Brest pour dénoncer donc un événement qui ne ferait, selon eux, rien de plus que des ronds dans l'eau.
Il va se raconter plein de choses, voire même il va y avoir des engagements qui seront pris, mais en termes de changement concret, on n'aura rien du tout, quoi.
Et vous pensez pas que ça peut quand même, sur certains sujets, au moins permettre de discuter, d'avancer sur certains points, non ?
Discuter, on s'en fout, là. On n'est plus au moment où il faut discuter, en fait. Là, on est vraiment au moment où il faut agir.
Pour vous, c'est de l'affichage, en fait, c'est ça ?
Ouais, complètement. Bah, on est en pleine période de campagne présidentielle. Enfin, je veux dire, les océans, fallait s'en occuper avant. Il y a quand même un quinquennat qui vient de se passer, là. Et là, on nous fait un sommet juste avant la fin, comme ça.
Une supercherie, disent même en off d'autres acteurs de la sauvegarde des océans. La journaliste Catherine Le Gall, elle, présente au sommet, parle d'imposture océanique, c'est le titre de son livre paru aux éditions La Découverte, qui va d'ailleurs bien au-delà l'imposture de ce simple sommet.
Le but, c'est de sauver l'océan, évidemment, mais les moyens proposés questionnent. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut développer une industrie telle que le tourisme ? Est-ce qu'on peut développer une industrie telle que le transport maritime ? Aujourd'hui, la mer est devenue le nouvel Eldorado des industries. Et donc, il y a un fort potentiel, il y a un fort levier économique sur les océans. Et l'imposture, c'est de dire que on va pouvoir protéger et en même temps exploiter.
Mais ça s'appelle l'économie bleue. Mais Olivier Poivre d'Arvor, lui, nie tout blue washing.
Blabla, blue washing. Je sais pas ce que ça veut dire. Il y a une dynamique là. Il s'agira pas du tout d'intention. Il s'agira de traiter. C'est juridique. Ce qui va être annoncé, c'est des financements. C'est sur la pollution plastique aussi. Donc c'est concret, j'entends évidemment, et m'écoutez, non seulement j'entends, mais je partage. Je pense qu'il faut juste qu'on s'entende ensemble pour dire qu'est-ce qu'on fait.
Mais encore une fois, la démarche inédite, hein, c'est la première fois qu'un sommet international est consacré aux océans, la démarche suscite le scepticisme d'une partie des experts.
On nous parle de neutralité carbone, on nous parle d'air marine protégée, on a l'impression que c'est super bien et que effectivement ça va être utile. Mais quand on regarde les effets pervers des aires marines protégées ou de la neutralité carbone, alors on peut se questionner.
D'autant, ajoute Catherine Le Gall, que même si par exemple les 4 plus grands transporteurs européens de containers sont présents, comme d'autres souvent montrés du doigt pour la pollution et les impacts qu'ils ont sur l'océan, et les leviers à mettre en place pour les limiter, il y a quand même des gros manquements, peu à attendre par exemple de la surpêche, sur la surpêche, et surtout...
Le grand absent en tous les cas... J'ai l'impression à ce sommet qu'il y ait toutes les pollutions à terre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en premier lieu, 80% de la pollution en mer vient de terre.
Voilà, donc on ne parle pas forcément que des océans, mais il n'y a pas ça au sommet. Pas de quoi déstabiliser, encore une fois, cela dit, du côté de l'organisation du sommet.
Moi, je pense que le 21e siècle, ça ne sera pas le siècle de l'espace, ça sera clairement le siècle de l'océan.
Eh ben, on le souhaite, hein, mais pour de bonnes nouvelles alors.
Et c'est Camille Passauvert à réécouter sur la page de la Terre au Carré.
François Chartier, donc je disais tout à l'heure de façon un petit peu ironique, mais c'est vrai, il y a eu le One Planet Summit annoncé pareil en grande pompe qui a eu lieu donc il y a un an, en janvier 2021. Le One Planet Summit, qui se souvient de ce qui s'est passé, de ce qui en est sorti ? Est-ce qu'il y a un moment, vous en avez pas marre et les ONG, et je m'adresse aussi à vous, Pierre-Marie Saradin, les chercheurs de tout ce faste.
Oui, surtout que ce discours, on l'entend depuis le début du quinquennat, sur le climat, sur les océans, une posture très volontariste, et on pourrait signer un certain nombre de choses qui ont été dites des deux mains, et quand on regarde la réalité, bah, je rejoins tout ce qui a été dit, on co-organise avec Pleine Mer et le rassemblement de vendredi, et je suis entièrement d'accord avec ce que dit Thibault, avec peut-être, laissons le bénéfice du doute. Nous jouons notre rôle de société civile pendant ces 3 jours à ce que les choses aillent plus loin que ce qu'on a aujourd'hui sur la table. De ce qu'on entend, les engagements aujourd'hui seront pas à la hauteur.
Pierre-Marie
Sardin. Si on veut
vraiment
aller plus loin, il faut quelque chose de concret et de plus fort.
Pierre-Marie Sardin, quand on voit, si on prend même la COP21 en 2015, donc avec un autre président, on le rappelle, qui a fait bouger les choses, mais aujourd'hui, la trajectoire n'y est pas du tout. Est-ce qu'il y a un moment, encore une fois, je repose la question, vous, scientifiques, vous en avez pas marre, quoi?
Ben nous, on continue, comme disait François Chartier, les ONG jouent leur rôle dans la société civile. Nous, scientifiques, on essaye de continuer à jouer notre rôle, qui est d'aller chercher des questions à toutes des réponses, pardon, à toutes les questions qui sont posées. Donc, effectivement, de temps en temps, on peut en avoir marre parce qu'il y a beaucoup de paroles et que les scientifiques ne sont pas écoutés, mais on continue coûte que goutte à travailler.
Bon, vous êtes un peu plus tempéré, j'ai l'impression quand même, Pierre-Marie Saradin. Vous n'avez pas envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est ça, et de jouer trop les grincheux ?
Non, c'est une question qui est vraiment compliquée. J'étais assez d'accord avec la personne qui a parlé de la pollution qui vient de la Terre. En fait, l'océan, on a vu, l'océan c'est global. La Terre et même tout ce qui vient dans l'océan vient de la Terre. Donc, si on jette le bébé avec l'eau du bain, la difficulté c'est de voir toutes les réactions qu'il va y avoir derrière. Effectivement, un point qui est vraiment important, c'est le paradoxe entre on va lutter contre le changement climatique en électrifiant, par exemple, en décarbonant les transports, et ouais. À côté de ça, ça va peut-être nous pousser à aller chercher des métaux au fond de l'océan. Donc c'est une question qui est vraiment globale et qui nécessite une réflexion compliquée, puisque ça ne peut que tous nous impacter.
Voilà, global et complexe. On aborde donc cette question de l'exploitation des océans avec vous. Il y a beaucoup de messages d'ailleurs de la part des auditeurs. On vous transmet ces questions juste après Bad Religion et Cat Power et Camille qui tousse.
Pardon.
Et c'était Cat Power sur France Inter avec Thierry Dupin pour la programmation musicale de La Terre au Carré.
La Terre au Carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Bonjour La Terre au Carré, c'est Laurent à Port-Vendres. J'ai fait des études de géologie marine et à l'époque, les cours sur les nodules polymétalliques, c'était vraiment le cours tarte à la crème. Car on savait très bien qu'économiquement, ce n'était pas rentable, extrêmement polluant, et en plus, on ne savait même pas s'ils existaient réellement. Voilà.
Alors ça, c'est pour vous, Pierre-Marie Saradin, qui est en duplex de France Bleu Brésisel à Quimper. Est-ce que vous voulez répondre à Laurent alors sur ces nodules polymétalliques?
Alors moi, j'ai pas fait de cours de géologie marine, donc je vais lui répondre à côté. Non, ces nodules existent, ça, on ne peut pas le nier. Ces nodules existent. Ils abritent une faune vraiment particulière qui va s'accrocher à ces petits nodules. Ils recouvrent des milliers de kilomètres carrés. Donc là, c'est vraiment une certitude. Quant à la dernière question, est-ce que c'est reste viable économiquement de les exploiter? Ça, c'est vraiment une question qui reste complètement ouverte.
Et est-ce qu'on peut refaire un point d'ailleurs sur, en gros, les gisements, ce qu'on pourrait trouver au fond de l'eau et sur lequel pourraient se jeter certains industriels? En gros, ça nous servirait à quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme or, je mets des guillemets à or, dans ce plancher océanique-là?
Donc on a parlé tout à l'heure, il y a trois sortes de ressources qui sont d'intérêt ou qui sont dans le collimateur, si on peut dire ça. On va avoir les nodules polymétalliques qui ont été découverts, je crois c'était en 1850, donc ça date de très très longtemps. Donc ces petites pommes de terre d'une dizaine de centimètres de diamètre et qui vont être enrichies en manganèse, en fer, en cuivre, nickel, cobalt.
Pouvoir servir, pardon, à toutes nos nouvelles technologies, c'était ça le sens de ma question.
Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment, on a des métaux partout, des métaux rares aussi bien dans les téléphones portables, tout ce qui est électronique et aussi ce dont on parlait tout à l'heure, tout ce qui est énergie renouvelable.
Il y a d'autres types de minéraux, hein, à part ces nodules, justement, Pierre-Marie Saradin.
Donc les autres ressources, c'est les sulfures hydrothermaux qui vont être formés également pendant des millions d'années par l'émission d'un fluide très très chaud chargé en métaux qui va précipiter et former petit à petit ces amas sulfurés. Ouais. Et enfin, on a les encroûtements cobaltifères qu'on va trouver sur les monts sous-marins et qui sont une croûte enrichie en cobalt et puis en d'autres métaux.
Bon, ben c'est le cours du jour, on va retenir. Nodules polymétalliques, encroûtements cobaltifères et amas sulfurés, voilà.
Une question de Vincent sur franceinter.fr qui nous écrit: une catastrophe de plus, cette exploitation des nodules. Les scientifiques n'ont pas fini de découvrir les grands fonds et d'inventorier les espèces qui y vivent. Je crains qu'ils ne soient pris de vitesse par les industriels. Il y a tellement de fric à faire. Et Colette ajoute toujours sur franceinter.fr: est-ce qu'on ne peut pas juste envisager, s'il vous plaît, de laisser les océans tranquilles? Alors François Chartier, comment est-ce qu'on pourrait éviter que tout ce petit monde soit exploité?
C'est l'objet des moratoires aussi. Hein.
C'est exactement ça, mais la question est: ok, on peut aller chercher ces ressources qui existent, mais est-ce qu'on en a besoin? Alors, on a besoin de cobalt et de nickel, par exemple, pour les batteries. On parle de l'électrification des véhicules, on a besoin de ça. Mais oui, on en a besoin si on est dans une logique linéaire, un peu l'économie productiviste basée sur les mines du 19e siècle, ce monde d'avant, où on va jouer sur des ressources finies. Puis quand on n'aurait plus un gisement, on ira après, et puis après, et puis après. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une économie circulaire où le recyclage, la recyclabilité de ces métaux, les métaux se recyclent beaucoup plus longtemps que des plastiques ou du papier. On n'est pas dans les mêmes types de produits. C'est des questions de filière. Donc, premier élément. Et puis, une économie de la sobriété. Quand on parle de la transition, notamment des mobilités, si on conçoit l'idée qu'il y a autant de voitures électriques que de voitures thermiques, on se plante complètement, on va dans le mur. Alors que si on repense les mobilités avec moins de véhicules, des véhicules qui n'émettent plus de CO2 et un système circulaire, l'hypothèse qu'on n'ait pas du tout besoin de ces métaux, elle est réelle. Et c'est ça qu'il faut qu'on évalue avant d'y aller.
Alors, sur les bénéfices de cette exploitation, bien l'exemple de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, avec l'entreprise canadienne Nautilus Minerals, qui est déjà en train d'explorer les cheminées hydrothermales. C'est à 1700 mètres de profondeur. Et je vous propose d'entendre Mike Johnson, le directeur de l'entreprise, parce qu'évidemment, ça pourrait lui rapporter très gros.
En termes économiques, le revenu que l'on peut tirer par kilomètre carré exploité peut atteindre 10 à 15 milliards de dollars.
Mais à quel prix? Des chercheurs s'alarment, ces cheminées sont des oasis de vie animale et microbienne. Pour les chercheurs français, une exploitation minière détruirait à coup sûr toute cette faune, des formes de vie pourtant riches en nouvelles molécules pour la recherche médicale.
Voilà, François Chartier, ça va être difficile de lutter contre les milliards de dollars à la clé quand même de cette industrie.
Alors c'est amusant hein, parce que Nautilus depuis a fait faillite.
Ouais.
Donc c'est pas si gagnant que ça comme business. C'est vraiment on doit mouiller. On dit oui, il y a des milliards. On n'en sait rien. Il y a des problèmes de concentration dans de métaux par rapport au volume à extraire. Il y a des problèmes de rendement.
Enfin, a priori, mais s'ils se jettent tous, comme vous disiez tout à l'heure, vous citiez quelques entreprises, s'ils ont tous les yeux dessus, c'est qu'il y a quand même a priori quelques milliards à se faire, non?
Il y a un côté aventurier aussi dans ces industriels du minier qui sont un peu à la marge. Et on le voit bien avec des boîtes comme Nautilus qui font faillite. Il y a encore un vrai questionnement. Il y a une utopie un peu du modèle libéral qu'on va faire fortune. Mais bon, et son, rien n'est sûr.
Son patron qu'on vient d'entendre s'exprimer en 2015 hein, au micro de France 2. Camille, des messages.
Oui, Annie nous écrit, si j'ai bien compris votre invité, elle parle de vous, Pierre-Marie Saradin. Les coûts préliminaires sont financés donc par l'Ifremer, donc en grande partie, nous dit-elle, par l'argent public. Ensuite, l'exploitation des ressources minières ainsi prospectées, donc la partie qui rapporte de l'argent, serait donnée aux entreprises privées. À eux donc les rentrées financières, aux finances publiques, les coûts préliminaires. Comment est-ce qu'on gère effectivement cette espèce de paradoxe?
Alors, c'est un paradoxe, c'est un paradoxe qu'on peut appliquer à toute la recherche publique. C'est-à-dire, il y a une grande partie des découvertes fondamentales qui ont été acquises, découvertes grâce à de l'argent public sur des laboratoires publics, etc. Et ensuite, ces découvertes vont être valorisées par des entreprises privées.
Est-ce que Pierre-Marie Saradin, il y a des zones d'intérêt particulières sur le globe justement pour aller explorer ces fonds marins?
Alors pour le moment, il y a toute la zone de fracture de Clarion-Clipperton dans le Pacifique, avec pour le moment, je crois, 14 ou 16 contrats d'exploration. Il y a toutes les dorsales médio-océaniques, donc là où on va avoir des processus de circulation hydrothermale qui sont en cours d'exploration aussi, mais beaucoup pour des raisons scientifiques. Ouais. Et ensuite, il y a tous les monts sous-marins. Qui vont être le lieu de présence de ces encrottements cobaltifères et qui sont intéressants aussi puisque ces monts sous-marins vont servir également de réservoirs de diversité, vont servir de lieu de protection, de nourricerie et de frayère aux plus grands poissons.
Ouais. On compterait 250 zones d'intérêt pour l'exploitation minière, hein, François Chartier, dans le monde, hein, je crois.
Oui, ce qui est à l'échelle de la surface des océans. Et peu, alors on n'a pas tout découvert, mais ce qui renforce l'argument de dire que tout se concentre, et la vie et ses ressources, dans des endroits finalement très peu nombreux. La surface de l'océan est immense, mais ses ressources sont très concentrées, d'où l'intérêt, d'où l'importance de les protéger en priorité aussi.
Et au niveau, Pierre-Marie Saradin, du recueil des données et ensuite de leur transmission, j'ai une petite question que je me pose. Est-ce que parfois vous seriez pas tentés, vous scientifiques qui du coup êtes les premiers, vous êtes les éclaireurs sur le terrain, de garder certains trucs pour vous? Alors ça pose un problème puisque du coup la connaissance va en pâtir, mais quelque part vous dire bon, en fait on va pas le dire parce que sinon ils vont tous se jeter dessus. Est-ce que parfois vous avez ce genre de petit dilemme ou pas du tout?
Alors au contraire, pour toute la partie qui me concerne, c'est-à-dire toute la partie environnementale, on essaye de rendre public toutes ces connaissances, on essaye de travailler avec nos collègues chercheurs européens ou étrangers, justement pour que les bases de données soient par ce partage plus efficace.
François Chartier, est-ce que ces zones où on trouve beaucoup de minerais, ça correspond aussi à des zones de grande biodiversité? Est-ce que ça va avec toujours ou pas?
C'est exactement ça, c'est-à-dire que comme Pierre-Marie l'a dit, les petits nodules, la vie s'attache dessus. Sur la plaine abyssale, sur du fond sédimentaire, il n'y a pas de vie, il n'y a rien.
Ouais.
Sur les zones hydrothermales, alors là, c'est là où on a des températures et des pressions et des acidités très fortes, donc une vie qui repose sur une forme de chimiosynthèse, donc très différente de la vie qu'on connaît. Sur les monts sous-marins, alors c'est quelque chose qu'on connaît bien, on a beaucoup travaillé, vous vous rappelez l'histoire de la pêche profonde,
oui, bien sûr.
Qui a été interdite.
Chalutage.
On chalute sur les monts sous-marins, on chalute pas en pleine mer. Et déjà, rien qu'au chalut, passer sur ces monts sous-marins, on voit qu'on affecte sur des décennies une biodiversité. Vous avez des poissons qui sont quand même à maturité à 60 ans. Imaginez si vous allez découper ces monts pour choper le cobalt.
Ouais. Camille, d'autres questions?
Je me posais une question naïve, pardon, je vous donnerai une question de Samir après, mais moi là je me posais une question naïve. Est-ce qu'on pourrait imaginer une exploitation de ces fonds marins sans qu'il y ait trop de dégâts sur la biodiversité qui y vit, François Chartier ou Pierre-Marie Saradin?
Vous répondrez rapidement, on en doute beaucoup. Est-ce que déjà aujourd'hui il y a une exploitation minière durable à la surface de la Terre?
Ouais.
Probablement que si vous trouvez un exemple, je le suis preneur. Sur des écosystèmes, comme on disait, aussi vulnérables que ceux des grands fonds, c'est encore moins probable.
Allez, justement, sur les risques écologiques, on en parle dans un instant. Ce sera la suite et la fin de notre dossier. One, two, three,
suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où je niche les bouts. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi. Et voilà
se pose. C'est si bon quand on se pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. S'père, c'est si bon quand on se perd. Sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas.
Suis-moi, la voix de Camille sur France Inter. On parle de l'exploitation des grands fonds marins à l'occasion du One Ocean Summit en ce moment à Brest, avec nos invités en duplex de Quimper, François Chartier de Greenpeace et le scientifique Pierre-Marie Saradin. Qu'est-ce qu'on sait, d'ailleurs, Pierre-Marie Saradin, aujourd'hui, des risques de dégradation des écosystèmes liés à cette exploitation des abysses? Alors, que nous dit la science et les recherches là-dessus?
Alors, d'abord, je voudrais apporter une petite précision sur la vie dans les plaines abyssales. C'est pas du tout un désert, c'est au contraire une zone qui est très très diversifiée. On va avoir peu d'énergie disponible parce que l'énergie provient de la surface et est dégradée tout au long de la colonne d'eau. Mais par contre, on va avoir énormément de tout petits organismes, donc très diversifiés avec des espèces différentes, mais par contre, peu de biomasse.
Et alors, sur les risques écologiques?
Donc j'y viens. Actuellement, on a beaucoup de difficultés à quantifier ces risques écologiques. On les a listés. Donc le premier, c'est vraiment à partir du moment où vous allez enlever le substrat, c'est-à-dire le nodule polymétallique, l'encroûtement ou le l'amas sulfuré, vous allez enlever le substrat qui va être colonisé par ces organismes. Donc là, effectivement, il y a une destruction du substrat, donc une destruction de cet écosystème. Le deuxième impact qu'on a identifié, c'est la production d'un nuage de sédiments, soit parce que vous allez découvrir la ressource qui vous intéresse, soit quand vous allez broyer ce minerai et pour le remonter en surface, vous allez provoquer justement un nuage de sédiments. Ouais. Ce nuage de sédiments, on ne sait pas encore complètement sa composition, sa taille et l'empreinte qu'il va pouvoir avoir au niveau spatial, aussi bien sur le fond que dans la colonne d'eau. Ensuite, on va avoir d'autres impacts qui vont être l'apport de lumière, de son et de vibration justement dans ces environnements qui sont normalement dépourvus de lumière et finalement de vibrations autres que les séismes. Et on s'intéresse également de plus en plus au bruit. Alors vous avez dû entendre parler justement de la capacité de ces écosystèmes marins à communiquer avec du bruit. On le voit, on l'entend plutôt sur les récifs coralliens. Donc on se pose vraiment cette question. Le bruit pourrait les empêcher de communiquer, de se nourrir, etc. Et ensuite, les autres impacts seraient plutôt liés justement à des accidents, à des fuites liées à la présence de navires sur place.
Qui ne sont pas exclus, évidemment.
Un joli programme, en tout cas. Samir, sur franceinter.fr, nous pose cette question. L'océan doit-il dépendre du code minier ou du code environnemental? Comment on fait, François Chartier? Les deux?
Bah, c'est bien le problème, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des compétences par tranche, c'est ce fameux millefeuille. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'un traité avec une approche globale qui permette, comme c'est l'objectif, de mettre en place là où il faut conserver et une gestion durable, mais une gestion durable ne sera possible que si une grande partie est conservée, qui s'articule là-dedans. Mais il faut inverser l'articulation actuelle, c'est-à-dire replacer la conservation là où elle doit être et les usages en fonction de là où c'est possible.
Donc là maintenant, François Chartier, le temps est au combat. C'est ce que vous faites avec Greenpeace en faveur donc d'un traité sur la haute mer. Il y a donc aussi ce moratoire. Quel est le calendrier là à peu près sur les négociations par rapport à ce que vous avez déjà entamé?
Alors sur la haute mer, la prochaine étape, c'est mars prochain, ouais, avec les 15 jours de négociations à New York qui reprennent après 2 ans d'interruption avec le Covid. Ce qu'il faut, c'est que on ne cherche pas à tout prix à signer et à avoir finalement le consensus le plus bas, parce que ce qui va être sacrifié dans ce cas-là, c'est la gestion les aires marines protégées en haute mer, c'est la conservation. Et nous, notre crainte, et c'est pour ça qu'on attend quelque chose de plus fort que des engagements qu'on a déjà entendus là, aujourd'hui, cette semaine, c'est qu'il faut que les gouvernements, comme le gouvernement français, mouillent la chemise. Il faut envoyer des ministres, il faut aller au plus haut niveau de ces négociations, et il ne faut pas lâcher sur le volet conservation. Et puis après, il y a en filigrane, c'est moins visible, toutes ces négociations pour la discussion qu'on a aujourd'hui sur l'adoption de ce code minier, et ça pourrait se finaliser dans un an.
Ouais, en tout cas, le grand public commence à s'intéresser aussi à ces questions, et c'est plutôt une source de réjouissance quand même, hein, c'est que ça émerge dans le débat public. Hein.
Oui, et 50 000 personnes ont signé notre pétition pour appeler au moratoire en moins de 10 jours. Peut-être qu'on peut attendre une déclaration qui aille dans ce sens-là du président Macron vendredi.
Eh bien, ce sera à l'issue donc de ce One Ocean Summit en ce moment à Brest et pour 3 jours. Merci François Chartier et Pierre-Marie Saradin. Et merci beaucoup aux équipes de France Bleu Brésisel à Quimper qui nous ont permis de réaliser ce duplex.